résumé, la vie n'est pas facile. Et si tu as peur, il est difficile que tu arrives au bout de tes idées. C'est ça. Parce que la vie, elle est faite avec des difficultés et des problèmes et des obstacles. Et si toi, tu t'es dit que tu ne veux pas affronter réellement des difficultés, des problèmes, des obstacles dans la vie, soit tu restes à la mosquée, tu passes ta vie, ou bien tu restes à l'église. Mais si tu veux réellement réussir dans ta vie, tu veux être un homme, il faut te battre.
Moussa est guinéen, il vit en France. Ce n'est pas un choix, du moins ce n'était pas son premier choix. Il a dû quitter son pays précipitamment, au mois de mai l'année dernière, pour se mettre à l'abri. Il est ce qu'on appelle un réfugié. Dans son village, Moussa s'était mêlé d'un sujet dont on ne se mêle pas, surtout quand on est un homme. Depuis qu'il est en France, Moussa avance pas à pas, sans précipitation et avec détermination. Grâce au Refugee Food Festival, dans le cadre de son immersion à la brasserie Tête Haute, Moussa pourrait même avoir obtenu plus que ce qu'il attendait.
Oh oh ! C'est un podcast qui t'embarque au cœur d'un brassin éphémère et d'une histoire singulière. Un brassin pour dire haut et fier qui l'on est. Parce qu'à la brasserie Tête Haute, on pense que chaque récit partagé nous fait avancer collectivement. Des bières et des histoires à l'image de celles et ceux qui les brassent, franches, chaleureuses, intrépides, parfois déroutantes, mais toujours rafraîchissantes.
Dans ce podcast, il sera question, entre autres, de faux poivre et de vraie vigueur, d'insertion, de blé craquant et du poids parfois terrible des traditions. Mais avant toute chose, attrapez Anne-Sophie pour qu'elle nous explique ce qu'est le Refugee Food Festival et comment Moussa est arrivé chez nous.
Oui, en fait, il y a deux choses. Le Refugee Food Festival, c'est un festival culinaire qui existe dans plusieurs villes de France. Et il existe à Nantes. Et l'idée, c'est de créer la rencontre entre des chefs, des artisans nantais et des personnes réfugiées qui aiment la cuisine ou qui sont intéressées par l'artisanat et souhaiteraient s'insérer professionnellement dans ces domaines-là. Et en fait, ça résonnait beaucoup avec ce qu'on fait chez Tête Haute. Et on a eu la chance de rencontrer Moussa, qui aime beaucoup la cuisine, mais qui se disait aussi que faire une bière chez Tête Haute, ça pouvait être sympa. Et moi, j'ai rencontré Moussa une première fois, on s'est présenté, je lui ai parlé un petit peu de la brasserie et de ce qu'on y faisait. Et finalement, le Refugee Food Festival a choisi qu'on fasse cette collaboration ensemble. Et c'est très chouette, parce que Moussa a pu passer une semaine à la brasserie pour découvrir les différents métiers. Et puis avec Aude, notre zytologue, on a pu commencer à réfléchir avec lui à une recette spéciale et unique pour créer sa propre bière.
Alors voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Moussa est arrivé chez nous et il a fait de la cuisine. Ou plutôt non, si on veut vraiment reprendre les choses dans l'ordre, il s'est fait cuisiner par Aude, la zytologue de Tête Haute. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une bière à la maniguette. Aude, c'est quoi ça ?
C'est une épice qui a eu un très très grand succès au Moyen-Âge, notamment en France. Elle a été introduite en Europe au XIIIe siècle. On l'appelait « graine de paradis ». C'était un poivre rare et coûteux, donc avec une saveur proche du poivre, mais avec ce petit côté un petit peu épicé du gingembre. C'est vraiment un poivre que l'on retrouve essentiellement en Guinée. Et ce poivre donc, qui a à un moment disparu totalement du paysage, en France en tout cas, au XIXe siècle, on le retrouvait dans beaucoup de boissons médiévales, notamment le vin d'Hippocras et dans certaines bières à l'époque.
Et cette Moussa Paradise, c'est une wheat ale.
On est sur une bière dite blanche. Les bières blanches, en fait, c'est plutôt des bières de blé. On va retrouver une bière qui a un profil plutôt acidulé. On n'a pas d'amertume, mais elle va se différencier des autres, par exemple, notamment de la wheat beer, par le fait qu'on n'utilise pas de graines de coriandre pour la fabriquer. Dans les wheat beers, on a toujours de la graine de coriandre et de l'écorce d'orange. Ça, on ne va pas retrouver ça dans les wheat ale. Dans les wheat ale, on va être sur un profil qui va être un petit peu plus malté. On va percevoir des notes un petit peu plus de pain dans la bière et elle va avoir une finale un petit peu plus sèche.
Ça, c'est la théorie. Maintenant, il faut s'y coller.
Moussa, t'es prêt pour le grand jour ?
Oui.
Ah oui, oui. On est ravis de te réaccueillir en tout cas, après cette semaine d'immersion dans la brasserie, pour ce brassage partagé, ton brassage aujourd'hui. Donc Sylvain il vient d'arriver, c'est lui qui va t'accompagner aujourd'hui et qui va veiller sur toi et au bon déroulement des différentes opérations.
Alors Moussa, la recette d'aujourd'hui, donc on part sur une bière blanche. Donc on a quasiment moite-moite du malt d'orge et du malt de blé. Et du coup on va partir sur des houblons super cool. On a le Nelson Sauvin et le Sabreau. Donc on aura du Nelson Sauvin pour apporter un petit peu d'amertume. On veut une bière blanche mais quand même avec un peu d'amertume. Et du Sabreau qu'on mettra en fin d'ébullition qui va ramener un petit peu des notes de noix de coco. C'est un peu la particularité de ce houblon. Et ensuite aussi en fin d'ébullition, et c'est là que ça va être cool, c'est que on va mettre de la maniguette et de la bergamote.
Là on vérifie les températures. Pendant l'empattage, là on va faire un monopalier, donc un empattage à 66 degrés pendant une heure. Donc l'eau va tomber là-dedans, dans la cuve, et on va mettre les grains en même temps, et donc l'empattage va durer une heure pour extraire un maximum de sucre. Voilà, on va aller ouvrir les sacs et puis on va commencer. On va vérifier qu'on a bien toute la bonne recette. Alors, du pils, malt pils, on doit avoir 10 sacs.
10 sacs?
Ouais. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va mettre de la balle de riz, ça va aider à la filtration. C'est des écorges de riz. Elles sont en bas. Parce que le blé, en fait, ça a tendance à... C'est le gros problème, c'est que ça a tendance à colmater et ça bouche la filtration. Donc l'écorce de riz, ça permet de bien filtrer. Et on va mettre du flocon de blé aussi qui est en bas. Donc on est bon, on a plus qu'à ouvrir les sacs. On fait un nœud. Et après je vais te ramener de la ficelle. On va pouvoir le tremper dans le mou.
Dans le mou.
Voilà, ça va infuser comme ça.
Et c'est quoi?
Alors ça c'est des graines de maniguette. Et donc appelées aussi graines de paradis.
Graines de paradis, c'est important. Parce que le nom paradis existe.
Ouais. Mais elle va s'appeler la Moussa Paradise. Ah. Et donc là, écorce de bergamote. Là, c'est du coup, c'est de l'écorce broyée en poudre. Mmh. Voilà. Ça sent super bon aussi. Ça, on va le mettre directement là, à l'ébullition.
Oui.
Ça, j'ai pas peur, on peut les mettre directement.
Ça a l'odeur un peu comme girofle.
Un petit peu.
Moussa Paradise, c'est la classe quand même. Ça donne un peu envie d'aller voir à quoi il ressemble, le coin de paradis de Moussa. Un coin où le gingembre pousse particulièrement bien et où la récolte se fait au rythme des tam-tams.
Au moment de la récolte du gingembre, c'est beau et c'est joyeux. Surtout moi, je suis un villageois. N'importe quelle qualité de récolte, il y a de la joie et il y a de djembé, le djembé, le tam-tam. Il y a des personnes spécialisées chez nous. Ils sont là à taper le tam-tam pour encourager les gens et pour vous donner la force à récolter. Et c'est vraiment beau à voir.
Et dans quelle région de la Guinée tu as grandi, Moussa?
Je suis né à Yomou et ma maman est Guerzé, elle est de Yomou. Précisément Gbagné. Après Yomou, mon papa a eu la chance d'être embauché à la Sogipa. En ce moment, la Sogipa était une petite entreprise. Et nous sommes portés à Djeké. Et du coup, ça allait bien. Et puis, on était logés dans une cité des cadres.
Yomou, comme Djeké, sont deux petites villes situées en Guinée forestière, tout au sud, juste à la frontière avec le Libéria. Et là-bas, si l'on en croit Moussa, la vie est plus facile qu'à la capitale.
La Guinée forestière, même s'il n'y a pas des usines, la Guinée forestière fonctionne parce qu'avec des cafés, des cacao, etc., on vit mieux par rapport à la capitale. Parce que la Guinée forestière, même si tu as un euro, tu peux faire des jours avec ça et tu t'achètes des bons plats, tu manges et puis ça va.
Si la région est belle et les récoltes sont joyeuses, si la vie est plutôt facile, alors il faut qu'on demande à Moussa pourquoi il est parti.
Je suis président d'une association qui lutte contre l'exclusion des femmes et des jeunes filles. L'exclusion est très pratiquée en Guinée, précisément dans la Guinée forestière.
La Guinée est le deuxième pays le plus touché par l'excision, juste après la Somalie. Quand Moussa dit « très touché », ça veut dire 97% des femmes. Et contrairement à d'autres pays d'Afrique, cette pratique ne régresse pas. Donc, toi Moussa, tu pars parce que ta vie est menacée.
Exactement, parce que je mets ma bouche dans l'excision des femmes et des jeunes filles. Chez nous, la communauté s'oppose à ça, surtout voir un homme qui parle de l'excision.
Et un homme musulman encore plus.
Oui. On voit ce que c'est grave chez eux. Chez nous, ce qu'on appelle Nyamanantigi chez nous, le village, en fait, vous êtes les premiers natifs du village. Nous, le village nous appartient. Voir un natif qui veut réellement dévier les traditions, qui est contre les traditions, c'est grave.
Et comment elle s'appelle cette association?
C'est Bouria.
C'est Bouria. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bouria, c'est le nom de mon village, j'ai donné.
L'excision, c'est une histoire de femmes, pratiquée par des femmes sur des jeunes filles. Comment est-ce que toi, Moussa, tu parviens à t'informer?
Du coup, ma grand-mère partenaire, souvent je discutais avec elle, si je quittais l'école. Elle dansait au moment des cérémonies de l'excision. Elle savait beaucoup dans ça, mais elle ne m'expliquait pas tellement parce que... pour eux, ça, c'est un secret.
Et en plus, on ne le dit pas à un garçon, peut-être.
Un garçon, exact. Mmh. Ouais. Mais moi souvent, avec ma sœur, elle causait avec ma sœur. Et ma sœur, moi, à mon tour, je demandais à ma sœur. Ma sœur m'expliquait par rapport à elle, clairement.
Et à quel âge, toi, quel âge tu as quand tu te dis, mais c'est pas possible, cette pratique-là, et je vais m'engager pour lutter contre ça. Tu as quel âge quand tu prends cette décision?
J'avais entre 14 ans et 15 ans, entre 13 ans et 15 ans. Un jour, j'étais au champ avec mon oncle. Nous sommes partis brusquement les trouver là où ils étaient, mais on ne pensait pas. En Guinée, si tu fais ça, tu te donnes l'arrêt de mort, au fait.
Ah oui.
Mais bien sûr. Toi, tu vas là où on excise les femmes, un homme, mais tu te donnes l'arrêt de mort.
D'accord. Mais nous, les hommes n'ont absolument pas le droit
jamais
d'être là à ces moments-là.
À ces moments.
D'accord.
Nous, du coup, nous sommes partis avec mon oncle. On ne savait pas.
Oui.
Nous sommes partis. Du coup, moi, je vis en distance. Les filles, elles étaient assises. L'air d'eau était déchiré. Je vis ça.
Ça, c'était une cérémonie d'excision ou c'était autre chose?
Non, c'est la cérémonie d'excision. Non, ce n'était pas la cérémonie d'excision. Au fait, ils étaient déjà excisés, étaient dans la forêt. C'est après ça, à l'air sorti, ils organisent les cérémonies de l'excision.
D'accord.
C'est par étapes.
C'est par étapes.
Oui.
Ok.
Ouais.
Et toi, tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir,
exactement,
en fait.
Exactement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Du coup, en l'immédiat, je voulais en parler à mon homme contrôlait ma bouche. Nous sommes quittés là-bas, on s'est éloignés. Et puis, heureusement, personne ne nous a vus. Personne ne nous a vus. Et puis, nous sommes venus à la maison. J'ai demandé à mon oncle. Mon oncle, lui aussi, il m'a expliqué. Mais il m'a dit de ne pas mêler, de laisser le problème tranquille. Depuis le jour, je me faisais des idées. Ça m'a choqué. Du coup, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et du coup,
je demande à Moussa quel genre d'action il menait pour lutter.
J'avais plusieurs manières et formes pour lutter contre l'excision. Je profitais de la pauvreté, parce que chez nous, nos parents sont pauvres. Les vieilles dames qui excisent les femmes, ils n'ont rien. Je venais vers toi, je disais d'accord, tu peux laisser l'excision et je te donne un sou, tu fais ça, mais tu fais un papier avec moi, tu signes. Réellement, si tu veux réellement totalement laisser, et je te donne du temps, tu réfléchis. Là, elle dit d'accord, je vais y penser. Là, une semaine, deux semaines, d'autres m'appellent. Et d'autres ne m'appellent pas. D'autres me disent, d'accord, Diawara, là, je suis prêt. Là, je me déplace, je viens, je dis oui. Je dis, tu penses faire quoi ou tu aimerais faire quoi? D'autres disent qu'elle veut faire le savon pour vendre au marché. D'autres aussi disent que réellement, elle veut cultiver. Ça, c'était des chefs, des vieilles qui excisaient.
Okay.
Mais pour les jeunes hommes ou les jeunes filles, j'organisais des matchs de gala pour les sensibiliser. En même temps, je faisais des t-shirts. Je faisais aussi des pains. Des pains, j'achetais des pains. Un pain, je pouvais les donner pour les sensibiliser. Et du coup, je profitais pour les expliquer les inconvénients, au fait, de l'excision. Ouais. Je les expliquais. Et puis, je profite avec le micro, je les explique.
Évidemment, lister au micro lors d'un gala les inconvénients de l'excision pour faire changer les mentalités, c'est risqué. Moussa a pris ce risque. En échange, il a reçu des coups et des menaces de mort. Une fois en France, l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés, lui a accordé très rapidement le droit d'asile. Et maintenant alors, qu'est-ce qu'il fait de son temps, Moussa ?
Là, je me suis dit tout le temps, rien ne passe s'il y a la santé et la longévité. J'aurai le temps de voir les séries, de faire la sortie. Mon souci était d'abord d'avoir mon statut. Je l'ai eu. Je me suis débarrassé de tout, me concentrer sur ça. Et deuxièmement, avoir des séries, les trucs, je me concentrais sur le Google pour voir quelle entreprise réellement je pouvais avoir. J'ai eu la chance aujourd'hui, on m'a annoncé une nouvelle. C'était mon souci. C'était mon souci parce que je n'ai pas voulu travailler comme ça, pêle-mêle, comme les gens qui n'ont pas d'objectif. Et une personne qui n'a pas étudié, je n'ai pas voulu ça. La bonne nouvelle est qu'on me dit aujourd'hui, Moussa, vraiment, nous sommes contents de toi. Franchement, tu as beau travailler pendant toute ton immersion ici. On t'apprécie beaucoup. Là, du coup, on aimerait maintenant te retenir ici, dans l'entreprise. Je dis, waouh, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je vais même appeler ton frère pour prendre une photo, ça c'est souvenir.
T'as fait ça ce matin, c'est vrai?
Ce matin, c'est vrai.
selfie
l'immédiat de bonne nouvelle.
T'as raison, faut les garder cela.
Ouais, c'est ça. J'ai dit oui, j'ai dit c'est bien et j'ai dit Dieu merci et je remercie Dieu. Maintenant du coup, je suis là. Je vais pouvoir me construire petit à petit avec le temps. Je travaille, en même temps je gagne le sou. J'aurai le temps de me promener, de faire des séries. Ouais, non, c'est comme si Anne-Sophie m'avait demandé un moment ici que je ne me fais pas des amis dans les salles des gym ou des copines. J'ai dit non, le moment viendra. Oui. Moi, je ne me suis jamais précipité dans ma vie. Je vais de temps à temps.
Oh, oh. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site tête-haute.fr. Abonnez-vous, partagez et rejoignez l'aventure du brassage social avec Tête Haute.